Surpris par la nuit.
Royaume Forain Remix, dernière partie, Barthelbaï et la chute, les cabarets du fiasco. Par Yann Siré, réalisation Anne Fleury. Le risque des arts de la piste est aussi celui de la chute, du fiasco. C'est même l'un des ressorts du burlesque. Le « I would prefer not to » du Barthelbaï de Melville agit comme un propulseur d'effondrement, de destruction, par l'immobilité, la force d'inertie. Il se joue là le double principe de compétence et d'incompétence. C'est la rencontre de Beckett et de Buster Keaton qui mène jusqu'à l'extinction, avec The Film, cette catastrophe de l'interruption du mouvement dans le mutisme, l'aphasie ou le bégaiement que reprend un poète et écrivain comme Jérôme Gamme. C'est aussi The Party de Black Edward. Une ligne s'échappe du cirque européen pour passer dans le Barnum américain, avec ses chapiteaux, ses caravanes, ses exercices de transformisme, de travestissement. La culture de masse américaine est façonnée par ce Barnum qui place le remix, le clone, au centre de son cirque. Le vrai Buffalo Bill sur la piste, les faux Elvis à Las Vegas, le Freak Show continue avec des icônes sérielles reproductibles à l'infini. En France, les références traversent les avant-gardes, l'entrée des médiums des surréalistes, la télépathie du Rose c'est la vie de Marcel Duchamp, travesti en femme, les revolvers et coups de feu de Man Ray, de Cravant sur scène, de Jacques Vacher à la première des Mamelles de Tirésias. Ceci rejoint l'art des magnétiseurs et des stands de tir, tandis que Vacher fait un carton de fête foraine sur sa propre image. L'artiste moderne, puis contemporain, reprend les attitudes du saltimbanque, plus particulièrement celle du clown. De Dada et son cabaret Voltaire, jusqu'à Rondinone, le clown endormi, ou la photographe transformiste Cindy Sherman. Arnaud Labelle-Rejoux et Olivier Blancard remontent une entrée clownesque avec Lolo et Nono, mais en distordant les voix de ce remixage circassien. La performance est ici mise en crise de la même manière que Xavier Boussiron reprend les standards de Vince Taylor ou Roy Orbison, mais selon une méthode décalée. Avec Sophie Pérez, ils exploitent l'affirmation de Gombrowicz « Ma littérature est cirque, foire ». Par un mélange de farce et de culture minoritaire qu'ils greffent, les catégories explosent, rejoignant le Barnum qui rend indistincte toute frontière entre culture savante et culture populaire.
Qu'entendez-vous par là? Êtes-vous dans la lune? Je veux que vous m'aidiez à collationner ces feuilles, tenez. Et je les lui tendis. Je préférerais ne pas, dit-il. Je le regardais fixement. Son visage était émacié. Dans son œil gris régnait une vague placidité. Aucune ombre d'agitation n'en troublait la surface. Y aurait-il eu dans ses manières la moindre trace de malaise, de colère, d'impatience ou d'impertinence? En d'autres termes, y aurait-il eu quoi que ce soit d'ordinairement humain? Je l'aurais, sans doute aucun, chassé avec violence de mes bureaux. Mais, en l'occurrence, c'était plutôt le pâle buste de Cicéron en plâtre de Paris que j'aurais songé à jeter par la porte. Barthelbaï, Herman Melville.
Peter Sellers is Harundi V. Bakshi. Why would anyone invite him to the party?
À l'origine du numéro sur le burlesque, il y avait la volonté de déterminer ce qui serait, ce que serait, parce qu'on pourrait le mettre au pluriel, les opérations essentielles du burlesque. sachant qu'au fond, le phénomène principal, central, c'est le retournement.
Christophe Kim.
Qu'il soit d'ailleurs moral ou qu'il soit physique. Il joue sur différents plans. Et c'est donc partir d'une situation et avoir la capacité de la retourner, qui pourrait être à l'origine, disons, de toutes les formes de burlesque. Puis ensuite, évidemment, si on précise un tout petit peu, il y a un type de retournement spécifique au burlesque, selon moi, c'est celui qui consiste à inverser le domaine de la compétence ou du savoir. Et c'est là où, justement, il y a quelque chose d'important dans le burlesque et qui est vraiment sa dimension politique, on pourrait dire, si on la comprend, si on la place sur le plan des savoirs, c'est-à-dire qu'une incompétence peut être une compétence, un non-savoir peut être un savoir ou une excellence. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai retrouvé, d'ailleurs, au fond, au centre de la réflexion d'un philosophe comme Rancière, ce qui est assez drôle. Au fond, lui ne s'intéresse pas réellement au burlesque, mais il a pu s'intéresser à la figure de Chaplin. On pourrait prendre un exemple précis. Chez Chaplin, il y en a des dizaines et des dizaines, évidemment. On a en tête la scène dans le cirque, dans un cirque. C'est le moment où, ayant fait rire l'assistance de façon involontaire, disons, lors d'une représentation, le directeur du cirque lui propose d'intégrer l'équipe des clowns. Et Chaplin donc vient pour une répétition, comme ça, avec deux clowns. Et les deux clowns commencent à faire des exercices qui sont vraiment des routines de clowns. Donc avec seaux d'eau, chaises qui sont retirées, tarte à la crème, crème peinturlurée sur le visage. Et ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est que le personnage de Chaplin, lui, lorsqu'on retire la chaise du dos d'un des deux clowns, s'empresse de lui remettre pour qu'il ne tombe pas. Et lorsqu'on lui tartine de la crème sur le visage, ce qu'il fait, c'est qu'il prend son index, il la ramasse et il la mange. Donc en fait, il est toujours en dehors de tout ce que le clown peut faire, parce que finalement, il ne peut pas s'intégrer justement au cercle du cirque. Lui, il est toujours dans le monde, il n'est jamais sur scène. Il n'y a pas de notion de scène, il n'y a pas de notion de représentation. C'est un personnage qui traverse le monde, et qui traverse le monde de telle sorte qu'il n'a jamais de possibilité de s'arrêter de le traverser. Donc c'est le personnage de l'errant, on connaît bien ça, etc. Et c'est intéressant parce qu'il n'a pas de maison, évidemment, il n'a pas de famille. Son rêve de famille est un rêve délirant, est un rêve surréaliste. Il rêve une famille avec une vache qui monte sur la table pour le petit déjeuner, et lui, il a sa tasse et il tire sur le pic, quoi. Donc vraiment, c'est quelque chose de tout à fait inimaginable, inenvisageable. Et puis, évidemment, il y a la scène de Chaplin du combat de boxe, hein, qui est aussi, évidemment, comment est-ce qu'on peut boxer mieux qu'un boxeur en ne sachant pas boxer. Ça, c'est une démonstration absolument magistral, justement, d'une intelligence qui serait liée à une incompétence. Alors, ce renversement de l'incompétence en compétence, ça, pour moi, c'est l'essentiel du burlesque. Si on y ajoute, en plus, ce désir de bien faire, ce désir de s'intégrer, et cet échec, mais cet échec sans cesse reproduit, qu'on va retrouver chez Keaton, qu'on va retrouver aussi dans un film, moi, je trouve absolument génial, comme démonstration, justement, burlesque, très mené du début à la fin du film, c'est ces deux parties de Blake Edwards, le personnage interprété par Peter Sellers, qui est un étranger, qui ignore tout des règles de la mondanité et de la sociabilité. Alors, on sait très bien que la mondanité, c'est quelque chose de très réglé, de très codé et de très exclusif, dans le sens que si effectivement on ne fait pas partie du cercle mondain, on est tout de suite rejeté à l'extérieur, et qui va tout faire pour essayer de s'intégrer, et en essayant de s'intégrer, va détruire le cercle lui-même. Mais c'est pas pour... Il ne vient pas dans cette soirée, d'ailleurs, il ne devrait pas y être invité, il ne vient pas dans cette soirée avec, pour objectif, de faire sauter des conventions. Il y vient, il est heureux, il est ravi, hein, il se rend compte que finalement, personne ne veut de lui, donc il va tout faire pour se faire accepter, et c'est en voulant se faire accepter qu'il va finir par tout foutre en l'air.
Et pourtant, donc, quand on avait tracé ces trois noms, Bartleby, Beckett, Kafka, chez Bartleby, on ne peut pas dire que le Birdy Num Num de Peter Sellers soit la même chose que le I Would Prefer Not To.
Oui, mais la différence, c'est que justement la formule de Bartleby, ça ne se situe pas, selon moi, sur le même registre. Justement, il n'y a pas de volonté de bien faire, il y a une volonté de plutôt ne pas faire, quoi, disons, de préférer plutôt ne pas faire. Donc c'est tout à fait, évidemment, ça part sur une autre problématique, sur un autre registre. Et évidemment, ça crée une espèce de spirale en profondeur comme ça, qui sans, vraiment sans fin, dans laquelle tout est aspiré par le personnage au fond, et une force d'inertie et une force de neutralisation, on pourrait dire. C'est un personnage qui neutralise Bartleby, alors que au fond, les personnages que j'ai cités auparavant ne neutralisent rien. Quoi. Ils font toujours exploser.
Within the unforeseen, what letter am I dropping? A frameless sentence. Phrase sans cadre, sans tuteur, invertébré. A système de bouture. You're structuring the deep in me. You're devising demise of structure. You're undoing life, then letting it undo you. Be affected by this undoing done on. You're doing. La déviation, le déroutage. Effet sans cause, ce qui empêche de peindre et clair la sécession.
Il y a diverses opérations que tu opères sur la langue, au fond, des diffractions de mots, de syllabes, il y a des interruptions, il y a des reprises, des raccords, des faux raccords, des choses qui sont presque liées à une sorte de cinématographie, tout un vocabulaire au fond, et on pourrait dire tout un vocabulaire physique dans la langue, qui s'apparente en fait assez fortement à une sorte de slapstick de la langue.
Tu viens de dire le mot physique. Il est important pour moi parce que c'est en termes de sensation. Et donc je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, je ne suis pas sûr que ce soit conscient.
Jérôme Gamme.
Dans le sens où j'ai vu beaucoup de ce type de cinéma, et je suis très intéressé par le cinéma et par les arts de l'image, que ce soit la peinture ou la vidéo ou la photographie. Et ce qui me plaît, c'est que ce soit le slapstick ou un autre type d'œuvre cinématographique de cet ordre-là, c'est que plutôt que les corps tombent ou se cassent la gueule ou d'un côté humoristique ou d'un côté tragique, ce qui me plaît, c'est la puissance à l'œuvre dans les corps, que les corps soient en pleine puissance. Et là, oui, là, ça intervient complètement avec ce qui était en jeu lorsque j'écrivais ces livres, qui était un affect. Une image que je me donne à moi-même pour travailler, c'est quelqu'un qui se casse la gueule dans l'escalier. Alors, c'est emmerdant pour les personnes qui se cassent la gueule et ça peut être très grave. Mais ce que j'aime bien, c'est la façon dont la langue va se transformer, va se reformer et va surtout éprouver les puissances qui sont les siennes. Le fait qu'elle ne va pas mourir, par exemple, que se casser deux bras et une jambe ne va pas la rendre tétraplégique. Ça, oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup parce que ça veut dire que la langue peut être le milieu où on peut constamment se remettre à l'œuvre, renaître différemment. Donc en gros, dans cette plastique du corps de la langue, il y a l'enjeu du devenir. Dans ce sens-là. Donc je m'éloigne un peu de la question que tu me posais, mais en même temps pas complètement, c'était pas conscient, je savais pas que j'écrivais en me référant directement à ce type.
Mais ce sont les mêmes effets, je veux dire, formels, physiques, au sens où il y a des accélérations, ralentissements.
Tout à fait, il y a exactement, il y a des accélérations. L'accélération, on pourrait dire que c'est un désir d'aller plus vite que l'ordre, c'est-à-dire que la syntaxe ou même la sémantique, d'aller plus vite, de bouffer des lettres, il y en a qui sautent, il y en a qui tombent, il y en a qui sont happés, mangés. Donc il y a cette accélération-là. Il y a aussi de la stase ou du surplace, notamment du surplace collé. Le bégaiement, c'est une espèce de surplace collé ou une espèce de stroboscope où on va répéter le même geste parce qu'on a besoin de le répéter, parce qu'il ne passe pas, ou au contraire parce qu'on veut qu'il passe et qu'il nous fasse passer à travers un état pour aller ailleurs. Donc il y a vraiment un jeu clair sur les vitesses, oui. Au moment de l'écriture comme au moment de la performance, de la lecture publique. Sur la vitesse accélérée, sur la vitesse ralentie, sur la stase, sur le surplace. Le surplace comme une vrille qui vrille les temps du langage, le moment où on parle, pour voir ce qu'il y a dedans, en dessous, à travers. Non pas qu'il y aurait à travers je ne sais quelle âme ou identité ou que sais-je, non, au contraire. À travers le corps du langage, il y a le corps du langage. Donc c'est une espèce de surplace qui permet d'éprouver la liberté et la puissance.
Le ballon arrache le tout du sol et le monte jusqu'à l'altitude de largage. Certes, dont les débordements demeurent au ballement. L'élément clé de nos blocages ne nous guère mieux que sur le comportement déviant de lancinant comme ça, qui n'en finit pas plus, qui s'éternise comme ça, se poursuit encore et...
Moi, ce qui me fascine dans cette histoire du burlesque, ses origines comme sa tradition et sa généalogie, C'est une seule et même figure, c'est celle de l'homme qui tombe, de l'homme qui s'écroule, qui s'affale.
Jean-Yves Joinet.
Qui est la signature même de tout récit burlesque, de toute farce burlesque, mais que c'est simultanément aussi la signature et la trace et la marque de la mort de l'homme qui tombe à la guerre, c'est-à-dire le soldat frappé, qui s'écroule de la même manière. C'est la même silhouette, c'est le même mouvement, la même chorégraphie. Et ça m'évoque quelque chose parce que j'ai repensé très très récemment quand je jouais aux petits soldats avec mon frère et des petits soldats en plastique et on jetait des billes comme ça pour faire s'écrouler les soldats et on se disait, je ne sais pas si c'était quelque chose de très répandu, mais que quand ils tombaient sur le ventre, ils étaient morts et quand ils tombaient sur le dos, ils n'étaient que blessés. Et c'est pour ça, je crois que j'ai toujours signé « ventre à terre ». Ventre à terre, ça désigne de manière très ambiguë cette position très dynamique du corps courant à l'extrême, aux limites des lois de physique. Mais au-delà de ces lois, il y a vraiment le ventre à terre, c'est-à-dire le corps véritablement couché, face et ventre contre terre. Et ça me rappelait justement ces petits soldats qui, une fois qu'ils avaient été couchés, l'abdomen au sol était vraiment désigné comme mort, irrécupérable pour la bataille. Et moi, ça m'a troublé toujours ce fait qu'on puisse rire d'homme qui tombe et que ça soit le moteur essentiel du rire. Quelque chose que j'ai lu des choses sur le burlesque, sur les moteurs du rire, sur
Bergson,
ça ne m'a pas plus éclairé. Enfin, je ne comprends toujours pas pourquoi on rit des hommes qui tombent.
Qu'on retrouve chez certains artistes sans œuvre, il y a notamment l'usage de l'arme à feu, du revolver. C'est-à-dire que Jacques Vacher se tire sur sa propre image et ça finit par une overdose. Cravant tombe lui aussi puisqu'il fait de la boxe et il perd souvent et il disparaît dans le golfe du Mexique. Jacques Hugo, sans œuvre aussi, utilise le revolver et finit par se suicider avec. Et si on compte aussi les images de fêtes foraines, on voit notamment Breton avec un fusil qui tire dans une fête foraine. Il y a toutes ces images qui relient l'artiste sans œuvre à ses armes à feu et à ses stands de tir. Comment vous voyez cette espèce de liaison étrange en fait qui se reproduisent souvent de figure en figure.
Parlant des surréalistes, moi, ça m'évoque leur fascination pour Charlot. Et Charlot a été aussi Charlot soldat. C'est un des plus grands succès de Charlie Chaplin. Et comment on peut faire rire en dépeignant des histoires d'armes à feu, pour le coup, en l'occurrence la Première Guerre mondiale. L'histoire des armes à feu, l'histoire des revolvers, est une entrée certaine dans une tradition des artistes sans œuvre. Mais elle peut induire en erreur, dans le sens où, de mon point de vue, l'histoire ou la tradition des artistes sans œuvre, je la lis comme Enrique Villamatas la lit, c'est-à-dire comme une histoire enjouée, joyeuse, de gens qui font le pari de la vie plutôt que celle de l'art. Rigaud est à ce point de bascule, en effet, où c'est le pessimisme, le sentiment de l'impuissance qui entraîne au silence, qui entraîne à la non-production.
Mais tout ça, on a beaucoup d'ironie, beaucoup de femmes.
Et d'insolence. Oui, d'insolence. Mais les armes à feu, ils jouent un rôle différent. C'est-à-dire que Jacques Rigaud se suicide est une chose, mais que le coup de feu tiré par Jacques Vacher dans le théâtre à la première des Mamelles de Tirésias ne résonne pas de la même manière.
Il tire sur son image aussi, c'est très particulier.
Oui, il y a ça aussi, mais ce n'est que son image. Ce que je veux dire par là, c'est que de la même manière que les silences ont des qualités différentes dans l'histoire des artistes sans œuvre, l'usage du coup de feu a aussi une typologie propre. L'histoire des armes à feu introduit à d'autres histoires qui recouvrent celle-ci. On pense à Brautigan, bien sûr, Brautigan organisant ses concours de tir. Oui, voilà. Donc,
Il se tire dessus dans le noir.
Ouais, donc ça canarde pas mal dans l'histoire de l'art. Ouais.
C'était comme un spectacle de musical. C'était, si vous voulez, chacun avait son numéro.
Philippe Soupeau.
Il y avait, par exemple, moi je me souviens qu'il y avait un de mes numéros, c'était le célèbre illusionniste.
1983.
Et c'était, j'étais sur la scène et on apportait une malle d'où sortaient des ballons. Et Frankel et Éluard, renvoyaient les ballons en l'air en les nommant Clémenceau, Foch. Et même, on nommait un Cocteau. Alors Cocteau, Fontaine, avec un couteau de boucher, a crevé le ballon et a écrasé le reste du ballon comme un crachat. Parce que nous détestions Cocteau. C'était notre bête noire.
Et il y a aussi, donc, sur le surréalisme, cette chose qui fait que Breton et Aragon se rencontrent donc, dans un hôpital pendant la guerre. Et c'est là où il capte, au fond, l'automatisme. C'est-à-dire, là aussi, quelque chose qui échappe, disons, à l'œuvre, dont peut-être l'aboutissement serait le fameux « Rose, c'est la vie » de télépathie entre Duchamp et Desnos, en fait. Et où là, l'œuvre est impalpable, est immatérielle. Et j'y rajouterais les somnambulismes, l'entrée des médiums et toutes ces choses qui sont à la fois des œuvres, mais qui n'en sont pas, puisqu'elles ne laissent rien, elles ne laissent aucune trace, elles sont juste dans l'instant lui-même.
Oui, mais je pense que Breton, Aragon, capte bien des choses dans son hôpital à Nantes pendant la Première Guerre mondiale. C'est le lieu de la rencontre avec Vacher. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que Breton est à l'arrière. Breton est à l'arrière dans bien des sens de ce terme-là. C'est-à-dire qu'il est à l'arrière en tant que militaire, jeune étudiant en médecine, qui n'est pas sur le front. Il est à l'arrière aussi en tant qu'inventeur de langue. C'est-à-dire qu'il fantasme encore, jeune, une certaine idée de la carrière de grand écrivain. C'est-à-dire qu'il fantasme sur des écrivains qui n'ont rien à voir avec l'idée de l'art qu'il va promulguer et défendre pendant le reste de sa vie. Et c'est l'arrivée d'un jeune homme qui est Jacques Vacher, blessé au front. C'est-à-dire qu'il lui ramène les traces du front, les traces de la blessure, les traces de l'arme à feu, l'odeur de la poudre, qu'il ramène de très loin jusque dans les salles de l'hôpital de Nantes pour qu'il prenne conscience... Eh bien, ma foi, qu'en effet, la guerre est déclarée avec la culture et avec la société. Et que ce n'est pas une expérience directe. C'est une expérience qu'on lui transmet de manière très indirecte. Et que ces délires étranges, ésotériques, autant que laconiques de Vacher, qui lui disent, en effet, méfiez-vous de l'art, favorisez par votre regard les postures, les gestes, et non pas la poésie, enfin, des choses de cette nature-là, qu'il ne comprend pas, Breton, encore, qu'il va mettre du temps à comprendre. Faire le lien entre le soldat inconnu, les artistes sans œuvre et ce qui vous sert de fil conducteur, à savoir la foire et la fête foraine, il y a ce moment inouï à Verdun où Maginot décide de choisir un soldat inconnu. Et il demande à tous les chefs de région militaire de sortir des charniers un soldat inconnu français, de le mettre dans une bière, un cercueil, et de réunir ces 12 cercueils. Et on demande à un soldat le plus innocent possible de choisir l'un de ces cercueils, lequel deviendra le cercueil du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Et il y a quelque chose de tellement burlesque, ça semble tellement en effet un numéro de foire entre Dada et la foire du trône, qu'on en a une espèce de chose extrêmement jubilatoire et terrible. Et puis il y a aussi autre chose, entre la guerre et la foire et le cirque pour le coup. C'est 1910. Le grand cirque Barnum fait une tournée en Allemagne. Les militaires prussiens sont très 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 intéressés par la manière dont on débarque aussi rapidement tout le matériel du cirque et on le rembarque aussi rapidement. Et des études sont faites par l'armée allemande pour adapter cette technique d'embarquement et de débarquement du matériel du cirque au matériel de l'armée, ce qui servira énormément quelques années plus tard. Donc ça, c'est des liens absolument anodins, anecdotiques, mais qui me troublent beaucoup dans cette...
Et l'inverse, c'est-à-dire que les Américains vont faire des remakes de batailles à l'intérieur, et Barnum le premier, à l'intérieur, mais des remakes avec les personnages eux-mêmes. Si on pense à Buffalo Bill,
Buffalo Bill.
Voilà, qui tout d'un coup va jouer sa propre personne à l'intérieur même d'une sorte de remake à l'intérieur du cirque Barnum. Et si on reste sur ce fil de la guerre et d'identité, il y a aussi la monstruosité de ce qui va faire un bond à la médecine, de ceux qui reviennent défigurés aussi. Et dont certains vont finir d'ailleurs dans des baraques foraines, très étrangement.
Oui, ce qu'on a appelé les gueules cassées, qui apparaissent en foule dans le J'accuse de la belle Gans, qui, il y a des choses là qui relèvent en effet de la foire. et du grand guignol.
Tout d'un coup, là aussi, c'est aussi la guerre fait apparaître un inconscient, qui était l'inconscient des monstres qu'on avait montré quelque temps auparavant et qui reviennent en fait à travers ce qui reste de la guerre.
Et qui n'adviennent ou qui ne surviennent ou qui ne survivent que grâce au progrès. C'est ça qui est affligeant, enfin qui est troublant, c'est que seul le progrès est à même de produire ces monstres-là. Puisqu'à l'époque napoléonienne, on dit qu'aux Invalides, il en existait 5 qui avaient survécu des grandes campagnes napoléoniennes. On ne les appelait pas les gueules cassées à l'époque, mais les têtes de bois. Mais la médecine était tellement précaire qu'on n'a pas pu en sauver plus. Mais c'est le progrès qui fait que ces monstres se multiplient.
Il y a peut-être l'une des figures tutélaires, et je ne sais pas si jamais tu l'as croisé, qui est celle de Bartleby, en fait, c'est-à-dire celui qui en fait ne préférait ne pas et qui au fond réussit à entraîner une suite de catastrophes, une logique des catastrophes, et qu'on retrouve aussi dans ta manière d'utiliser le langage. Comme il y a la logique des foudres, il y aurait une logique des catastrophes.
Pour moi, Bartleby, c'est le type qui est sur place, qui fait du surplace.
Jérôme Gamme.
Et qui, par la puissance de ce surplace, qui est peut-être complètement informe et angoissante pour les autres, c'est les autres qui deviennent fous dans Bartleby, c'est pas Bartleby. Bartleby, lui, arrive à survivre à la violence qu'on lui fait. Qui est une violence, c'est une violence au travail. Bartleby, c'est l'histoire de la violence au travail. Et par extension, de la violence politique de l'endroit où il se trouve. Eh bien, cette violence-là, on arrive à passer au travers ou à weather the storm, c'est-à-dire la pouvoir y survivre, en rentrant dans cette plasticité-là, cette invertébration qui permet de ne pas subir, en fait, cette violence-là. Comme si on passait en deçà des formes de corps traditionnelles ou celles qu'on attend parce qu'on s'en sert pour arraisonner les gens, on pouvait passer à travers toute cette merde, la mettre de côté. Et presque, oui, il y a un effet de résistance là-dedans. Il y a un effet de résistance.
C'est même plus d'immobilisme. C'est une sorte de négativité à l'œuvre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut voir très souvent dans ton langage, non pas simplement un langage qui avance, mais aussi un langage qui recule, un langage qui s'élève à la puissance et un langage qui s'éteint. Enfin, l'action est en action, par exemple.
Tout à fait. Quand tu disais en avant et en arrière, je pensais en t'écoutant à Grand Master Flash et au rap du tout début de la fin des années 70. Du disque qu'on fait en avant et en arrière, et qui veut donc séjourner dans le protoplasme, comme dit l'autre, séjourner en infrabasse. Et dans cette zone-là, c'est vrai qu'elle pourrait devenir, et moi j'essaie d'éviter ça par goût, j'allais dire, d'en faire une espèce d'esthétique ou d'éthique de la négativité pure, c'est-à-dire de l'informe comme étant. Non, c'est pas ça. C'est de dire je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce que je veux, et c'est à l'intérieur de ce non-savoir que je peux savoir ce que j'ai à savoir, ou que je peux vouloir et faire ce que j'ai à faire.
En face, le pire, jusqu'à ce qu'il fasse rire. Fin fond du néant, au bout de quelle guette, l'œil crut entrevoir, remuer faiblement. La tête le calma, disant « Ce ne fut que dans la tête ». Samuel Beckett, Mirlitonade.
Pour ce qui concerne la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, c'est sûr qu'il y a deux lieux qui exercent une attraction assez puissante sur les artistes qui vont constituer les premières avant-gardes historiques.
Christophe Kim.
D'un côté, le cirque et les arts forains, et puis de l'autre côté, le cabaret, qui n'est pas exactement la même chose. Il ne s'y passe pas tout à fait la même chose, mais ce qui est certain, c'est que dans chacun de ces lieux, il y a une ouverture et une possibilité de faire se rencontrer des choses hétérogènes que nul autre lieu à cette époque-là ne peut produire. Et comme c'est quand même un des enjeux fondamentaux de ces avant-gardes-là, c'est presque des matrices, je dirais en tout cas, idéales de montage, d'assemblage et de choses comme ça. Le cabaret, par exemple, ça reste encore le modèle aujourd'hui, à mon avis, quand on voit certaines de ces dernières expositions, du travail d'un type comme Mike Kelly, qui est encore lié, bien sûr, aux avant-gardes historiques, parce que c'est un type qui défend encore tout à fait cette position-là, pour dire même vraiment peut-être un peu moderniste, tu vois, avec des effets de retour, mais avec ce référent qui est chez lui le cabaret, le transformisme, la culture américaine, justement, dans toutes ces stratifications qui font qu'elle s'est monstrueuse, qui fait qu'elle se rejoue, qu'elle se reprend, qu'elle se modifie en passant d'un point vers un autre, mais avec toujours cette espèce de lieu central où finalement toutes ces choses-là pourraient toujours arriver, qui est une sorte de cabaret. De théâtre, de cabaret, comme il a fait aussi tout récemment avec Franz Mess. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on voyait encore à quel point, s'il y avait un lieu où on pouvait arriver à mettre comme ça tout ce bric-à-brac de choses, qui n'est pas du tout une exposition, parce qu'une exposition, les expositions de Kelley sont très structurées. Là, il y avait cette espèce de truc un peu foutraque encore, où au fond, tout pouvait arriver, quoi.
Dès 1910, le cabaret devient l'un des lieux majeurs des avant-gardes. Ernst Bloch peut déclarer en 1928 « Voilà que d'autres formes surgissent venant de la rue, de la foire, du colportage. Formes neuves ou qui n'étaient connues qu'en des recoins méprisés. Ce fut la brusque irruption du clown dans le ballet agonisant et d'une revue de variété discontinue dans le vieil espace scénique si bien délimité. Futuriste, constructiviste russe, surréalisme, y trouve montage des formes, collage et formes subversives. Le spectacle Hopla Fascinus des compagnies Les Octavio, Les Possédés et Le Cheptel à l'Écoum reprennent ce mélange des genres détonnant.
Nous, on se bat un peu chez Les Octavio, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de cliché du clown. Alors, il y a deux clichés. Soit il y a le cliché du clown. Le clown McDo, qui ouais. nous intéresse pas tellement, soit les intellos, le clown, c'est ouais. toujours triste. Oui, voilà. Voilà. Alors que nous, on défend quand même l'idée que le clown est drôle.
Sophie Cusset, compagnie Les Octavio.
C'est une espèce de mystique clown qui est un peu pénible des fois. Donc l'idée de la conférence sur le clown, c'est comme s'il y avait les cahiers du cinéma, mais les cahiers du clown, quoi. Donc après, bon, c'est pris d'une façon clownesque. Mais on trouvait ça drôle que cette espèce de savant qui a un savoir sur le clown soit en fait le clown blanc. Enfin, de jouer avec la figure de l'Auguste et du clown blanc, mais de...
Et en même temps, ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que...
Sauf qu'on n'a pas retrouvé de clown empaillé dans la pyramide de Khéops.
Non, mais c'est souvent...
Qu'est-ce qui fait rire, parce que c'est un bouc émissaire, c'est celui qui se prend... Enfin, ouais, qui est maladroit.
Le Christ aux outrages, c'est Thierry Starobinski, portrait d'artiste en saltimbanque.
Enfin, nous, on a fait le dernier spectacle de la compagnie Octavio, ça s'appelait Le Christ, le retable et le clown, et c'était un spectacle sur le retable d'Isenheim. Et donc, il y avait un parallèle entre le clown comme... émissaire, donc il y avait tout un truc sur la tarte à la crème, l'entarté, voilà, le principe du coup de pied au cul, tout ça. Donc c'est vrai que des fois on a l'impression...
Parce que ce discours savant, il est vrai aussi. Mais là, il est démystifié, il n'y a pas ce côté cynique ou ironique, en fait. C'est-à-dire, on peut vous en parler pendant des heures, mais c'est pas ça, nous, notre question.
Ben là, l'idée, c'est quand même que dès qu'il y a un clown sur un plateau, ça peut pas tenir, quoi.
Ouais.
Tout de suite, c'est l'anarchie. C'est pour ça que, enfin, il y a vraiment quelque, il y a le savoir. C'est pour ça qu'on se présente qu'il y a une espèce de mise en abîme de la compagnie Octavio qui va faire du clown. Quand on est la compagnie Octavio, on est des gens bien élevés, on parle avec les gens. Mais dès qu'on met le nez rouge, c'est plus possible.
Dans le champ de l'art, il y a une histoire d'artistes qui ont essayé de mettre en crise des formes qui étaient figées, achevées, et en particulier par une présence dérangeante. Je vais un peu vite, mais c'est grosso modo ça.
Arnaud Labelle-Rojou.
Et je m'étais rendu compte, en effet, que dans les années 80 et le début des années 90, cette part dérangeante n'existait plus, parce que ou bien il y avait des formes aseptisées de la performance, ou bien il y avait des formes aseptisées des lieux pour présenter la performance, à savoir des festivals par exemple, où là on avait un public de spécialistes, de public d'aficionados, aussi bien des artistes que des critiques, qui en réalité n'en mettaient rien en cause, mais au contraire, produisaient du rituel de la performance. Et je me suis dit, en effet, invité dans un de ces festivals, qu'est-ce que je peux faire, moi, qui mettre en crise cette forme que je trouve un peu épuisée. Et j'ai eu l'idée du numéro de clown, en effet, parce que le numéro de clown joue de la caricature, d'une part, les effets sont gros, mais sont aussi une forme, je dirais, de mise à l'épreuve de l'artiste lui-même. Alors, je ne suis pas clown, hein. Mon comparse du moment, qui était Olivier Blancard, n'est pas plus clown que moi, mais c'est vrai que, assez souvent, lui comme moi d'ailleurs, on était apparus comme des trublions, pour utiliser ce terme. Donc quelque chose d'assez proche du clown, du déconneur, de celui qui fait des pieds de nez. Voilà. Et donc, en même temps, cette image du trublion, assimilable au clown, en réalité, est assez loin de ce que c'est vraiment qu'un clown. Un clown, c'est professionnellement quelque chose d'assez difficile. Un numéro de clown, c'est quelque chose de très, 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 très maîtrisé, hein, assez court, hein. Les entrées clownesques sont des entrées assez courtes, mais qui ont aussi ce rapport qui nous intéresse avec Olivier, qui est d'être en phase avec une actualité immédiate. Souvent, dans les numéros de clown, il y a des références à l'actualité. Et souvent, des références directement à l'art. Beaucoup de clowns musiciens et quelques clowns peintres, mais aussi des références donc à l'actualité. Quand il y a eu Lindbergh qui avait traversé l'Atlantique, il y avait des clowns qui avaient fait des numéros sur l'avion, etc., etc. Donc on s'était dit que ce numéro de clown, dans ce festival, pouvait apparaître simultanément comme une critique de ce que c'était que la performance, et en même temps, pour nous-mêmes, une sorte de performance dans le jeu d'incarnation, on va dire, de quelque chose qui n'était pas nous. Donc quelque chose qui mettait en péril notre propre image, notre propre rapport, et à la fois à l'art et au spectacle, puisque le clown, c'est du spectacle, c'est pas de la performance. Donc voilà, on était dans une espèce de posture comme ça, difficile, déséquilibrante, aussi bien pour nous que pour les spectateurs. Alors les spectateurs ont été plus que déséquilibrés, agressés, se sont sentis agressés. Nous-mêmes, nous avons été agressés sur scène. Et en même temps, on a en effet enfoncé un clou quelque part. Hein. Alors je ne sais pas si c'est un clou qui était juste ponctuel et qui, une fois l'événement passé, pouvait être assimilé en soi de la performance. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un moment important, puisque dès ce moment-là, j'ai décidé de ne plus faire de performance. J'ai décidé que je pouvais faire des actions publiques, mais je ne revendiquerais plus ce terme de performance. Même si d'autres l'utilisent pour moi. Hein. Enfin, je veux dire qu'on me met performeur, même si pour moi c'est une lecture publique, par exemple.
Voilà. Tiens, là, ça doit être ça.
Ici.
Ça là, ouais, voilà, ah. C'est la maison Bibron, le déménageur.
Oui, ben, je vois bien, mais vous savez que nous sommes ici à la Comédie Française.
Oui, oui.
Dans la loge de Monsieur Pipeau.
Non.
Qui entre demain dans cette illustre troupe. Alors, oui, monsieur, vous apportez le mobilier.
Oui, monsieur,
tout
oui.
Va bien.
Tout est là.
Non, tout n'est pas là, pardon, je vous demande pardon. Il manque le miroir.
Pipeau, chez Medrano, 1967, entrée de clown
oui,
au miroir.
Eh ben alors, allez chercher, mon vieux,
ah,
allez.
Ah, bon, d'accord, ben, oh là, vous savez. Allez, cours un peu, toi, allons. Ah là là, ouais, ça c'est malheur, hein. Ah là 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 là. Voilà. C'est pas croyable, ça. Mais, écoutez, il y avait une marche et je l'ai pas vue.
Eh oui, oui. Je l'ai pas vue. Mais alors, le miroir, où est-il?
Il est derrière.
Mon
Les morceaux sont entiers, hein.
Comment les morceaux sont entiers? Mais c'est une catastrophe.
Si vous voulez les...
Mais c'est une véritable catastrophe.
Pourquoi?
Pensez que Monsieur Pipeau va venir à l'instant en habit pour... J'ai une idée. Un habit,
pourquoi
oui,
faire
ça, écoutez, voilà. Il va venir répéter sa grande scène devant son miroir.
Ah.
Et alors, comme il est en train de dîner en ce moment...
Ici, là?
Ici, bien entendu. Alors, il est en train de dîner, comprenez-vous, assez confortablement pour fêter cet événement. Il va rentrer, je ne le rends pas très bien clair. Vous allez vous mettre de ce côté du miroir et vous allez faire exactement les mêmes gestes que lui.
Et vous croyez qu'il va...
Mais naturellement, dépêchez-vous,
Vous savez, moi, je suis déménageur, hein, moi. Allez, envoyez.
Voilà.
Allez, envoyez la vie.
Donnez-lui, s'il vous plaît.
Vite.
Voilà. Bon,
parce qu'on
le voit,
mais
oui.
On peut passer, là, là.
Voilà.
Bonsoir, mon cher Pipeau.
Comment
allez-vous?
Eh, vous, là, ça va très bien. Ah, ce soir, vous balancez un peu au nez.
Non, j'ai l'impression que vous allez très bien.
Ah,
on a fait un petit gueuleton avec les amis de la Comédie Française.
Ah, bah, je
m'en doute. C'est un cadeau pour vous.
Oh, ça c'est gentil, je vous remercie. Attendez.
La glace est là, le miroir.
Tout est là, le mobilier, le miroir.
Je vais péter un rôle, vous savez, à 5 ans. Hein.
Eh bien écoutez, ça me fera plaisir d'assister à la répétition.
Vraiment, oui.
Allez-y.
Parce que...
Qu'est-ce qu'il y a, ça?
Ça travaille.
Oui, ça va pas très bien.
Mais ça, c'est moi.
Oui.
J'ai des tomates et tout rouge.
Mais c'est le champagne.
La tomate, là. Ouais, ça va. Oui. C'est pas trop mal.
Non, très
là.
Bien.
Est-ce que tu avais l'idée qu'au fond, c'était quand même une vieille histoire, cette histoire de clown, c'est-à-dire de portrait de l'artiste en clown, quoi. Il y avait quand même, toi qui aimes beaucoup Gombrowicz a fait très souvent des références à ça. Il dit, moi je suis cirque, ma littérature c'est un truc de clown, etc. On le retrouve chez Picasso, on va le retrouver chez les dadaïstes, on va le retrouver chez Marinetti. Est-ce que tu avais cette conscience aussi que tu t'inscrivais au fond, paradoxalement d'ailleurs, puisque c'était une sorte d'achèvement d'un cycle, dans une histoire qui, disons, commence avec la fin du 19e, on peut dire ça comme ça.
Oui, j'ai conscience de ça, bien sûr. Mais le numéro de clown, c'est quelque chose de violent, c'est quelque chose de difficile pour celui qui l'incarne, enfin, surtout s'il n'est pas clown lui-même. Mais il y a ses visages aussi, ses masques, ses grimages, ce nez rouge, le bruit, tout ce qui fait que, quand j'étais enfant, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, quand j'étais enfant, moi, les clowns me faisaient plutôt peur, m'impressionnaient. Et en même temps, ce qui est impressionnant va dans le sens de la, pour moi, d'une dévocation de l'art, qui est quand même de bousculer le spectateur, le regardeur. Et je pense qu'en effet, mais alors ça ne date pas même de ce que tu dis, de ces artistes qui ont pu, ou ces écrivains qui ont pu faire référence au clown ou au cirque, mais ça date depuis l'Antiquité. La posture de la comédie chez Plaute, enfin même dès le départ de la comédie, c'est cette brutalité, voire cette grossièreté. Grossièreté des gestes, grossièreté verbale, qu'a très bien repris Fellini dans son film, où il y a vraiment des outrances, quoi. Et c'est cette outrance, moi, qui m'intéressait, qui peut nous rapprocher de la performance. Et les artistes qui ont pu aller chercher quelque chose du côté du clown se sont rendus compte qu'il y avait un côté tellement polissé dans l'art à un moment donné qu'il fallait bien le renverser en effet par quelque chose qui pouvait prendre la figure du clown ou d'autres formes populaires en effet.
Les formes burlesques aussi.
Toutes les formes burlesques, ouais. Exactement. Après, il y a des ajustements historiques, oui, ou théoriques qu'il faudrait peut-être serrer, mais à titre personnel, j'ai finalement un goût très prononcé pour le burlesque, avec effectivement aussi toutes les ambiguïtés que véhicule le burlesque. Il y a la violence dans le burlesque. Max Sennett le dit que ce sont des coups. Le slapstick, le terme burlesque américain, le slapstick, ça vient de la canne d'Arlequin, c'est la batte d'Arlequin. Donc, des coups. Donc c'est cette violence-là qu'on retrouve dans la tarte à la crème, qu'on retrouve dans... C'est ça que je pense que ces artistes ont recherché, c'est-à-dire une espèce de se délivrer de tout ce qui peut en faire des gens convenables, en fait. Hein.
Alors, moi, je ferais, encore une fois, peut-être des distinctions entre ce qui concerne la figure du clown, qui est vraiment en effet une figure qui revient assez fréquemment et cycliquement dans le domaine artistique et sous différentes manières, c'est-à-dire qui peut être vraiment sous forme de figure représentée jusqu'à la femme clown avec Sidney Sherman. Hein. On a là tout un éventail de choses, d'artistes en clown, ou qui seraient clown comme il pourrait être autre chose. Ça, ce serait une première catégorie. Et potentiellement, on pourrait dire que chaque artiste qui travaille un tout petit peu sur des mises en scène de soi ou des représentations de soi, quels que soient les moyens qu'il utilise, pourrait un jour en venir à être un clown.
Bon. Comme ce qu'avait fait André Belrougeau et Olivier Blancard, par exemple.
Oui, alors lui, ils en avaient fait aussi des spectacles. C'était deux artistes clowns, mais qui faisaient vraiment des clowneries, on pourrait dire. Donc là, sur scène ou dans des performances. Ça, ce serait une seconde catégorie, on pourrait dire, comme ça, voilà, de jouer à la fois sur la figure, mais aussi sur un discours. Il y aurait une parole d'un seul coup, ce ne serait pas simplement qu'une figure de clown. Et cette parole, bien sûr, étant elle-même soit incohérente, soit excessive, soit, etc., pouvant s'appliquer à différents domaines, et pourquoi pas des problématiques qui pourraient être l'art contemporain, l'art moderne, ou tout ce qu'on veut. Donc on voit très bien l'effet, là, justement, de déplacement, puis de second décalage que ça crée, et puis voilà. Il y a, dans la performance qui, justement, se porte vers l'excès, d'autres figures de clown, et bien sûr, sur la côte ouest, on pense évidemment à quelqu'un comme Paul McCarthy, qui a pu, par moments, prendre d'une certaine façon les habits du clown, ou devenir une sorte de clown. Mais alors, ça, c'est un clown qui est aussi complètement habité par d'autres modes de représentation du clown, qui sont issus aussi de la culture, je dirais, de série B ou de série Z, c'est-à-dire le clown violent, le clown méchant, le clown gore, tout ce qu'on veut, quoi. Alors, c'est un effet, je dirais, même périphérique de ce que fait McCarthy, parce que le but de son travail, c'est pas du tout d'incarner ce type de représentation de série Z et tout, mais ça, son travail est fait d'emprunt, d'amas, d'entassement de signes culturels différents. Évidemment, ces signes-là aussi, ils interviennent à l'intérieur. Et là, ce serait encore le cas de quelqu'un qui a fait des performances avec ça, et qui, pendant un certain nombre d'années, ce qu'il ne fait plus d'ailleurs. Bon.
Okay, so let's try to, if you want, if you want to paint the painting, I'm going to tell you how to paint. Try to mix. Oh, you try to do one, two. Okay. Okay, try to get it. Oh, that's what he always does. Try to mix it.
Et puis, il y aurait une troisième catégorie d'artistes qui serait moins liée à la figure du clown, qui seraient des gens comme au fond, John Cage, Alan Capro, Robert Filliou, qui sont des gens qui ont essayé d'inverser justement ces polarités du savoir et du non-savoir dans leur pratique artistique, sans pour autant se référer à aucune autre figure. Filliou a créé une sorte de personnage, on va dire, quand même. Oui, Boltanski également, c'est vrai. Mais Boltanski a traversé aussi comme ça les choses. Eux, il y avait une ligne comme ça qu'ils ont suivie tout au long de leur vie, qui était aussi finalement liée au fond à un art de vivre. Hein, vraiment l'art comme art de vivre. Et ça nous renvoie à autre chose, à mon avis, de beaucoup plus ancien. Un des fondements, en tout cas, qui pourrait être celui de la performance chez ces gens-là, qui est vraiment le cynisme antique. C'est-à-dire que là, on a beaucoup plus affaire à des sortes de philosophes cyniques que vraiment des figures de clowns. Et qui ne s'en sont jamais remis, d'ailleurs, au fond, à la figure du clown elle-même, dans aucun de leurs travaux. Mais voilà, ces trois points. Alors là, ces derniers, me semble-t-il, sur cette articulation, justement, compétence-incompétence, renversement de la compétence, renversement des lois de la composition, ça peut être aussi, hein, pour quelqu'un comme Cage, avec l'intervention du hasard. Attends, je ne veux pas revenir sur ces choses-là, je dirais des choses trop schématiques. Mais en tout cas, sur ces opérations-là, qui me semblent à l'origine du burlesque, j'en retrouve chez eux certaines, sinon beaucoup, et me semble-t-il, là on a une sorte de ligne assez claire, en tout cas pour moi, qui se dessine entre l'esthétisation de l'existence, de manière, ou l'esthétique de la vie, quoi, à partir vraiment de pratiques antiques jusqu'à aujourd'hui. Et me semble-t-il, dans la performance, il y a eu un moment dans les années 60 ou 70 où ça a été essentiel, puis ça s'est arrêté parce que la plupart de ces gens ont estimé qu'ils avaient mieux à faire que là.
Nous, c'est vrai qu'on est obsédés par tout ce qui est plastique. Voilà. C'est-à-dire que quand on parlait des inspirations, ouais, on peut être inspiré par la bataille de Tartes gigantesque qu'il y a chez Chaplin. Et puis, voilà, aller au concert. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est que j'avais adoré dans ce que disait Armando Llamas. Il disait, ben voilà, j'ai écrit des chansons pour Catherine Ringer et j'ai été conseiller dramatique pour Claude Régis. Mais moi, je me sens super proche de ça. Je me sens super proche de faire un playback de Dalida et puis après de faire un spectacle sur le retable d'Issenheim. J'aimerais que, et c'est ça que j'aime chez Sophie Pérez, c'est que justement vous parliez d'art noble et tout ça. Moi j'aime quand je pense qu'on peut être inspiré par un tableau et par le fait que j'ai fait des playbacks au Club Med quand j'avais 14 ans avec mes parents et j'ai eu mes premiers émois d'actrice, quoi. Enfin, j'adore ce mix, quoi. Et je pense que nous, chez Octavio, on aime mixer ça, quoi. Le trivial et le sublime. Enfin, c'est un peu...
Toi, le temps
et nous, les Octavio, on a beaucoup de mal à être... je trouve que la chance de Sophie Pérez, c'est qu'elle vient des arts plastiques. Parce que nous, le nombre de théâtres où... Nous, on nous a dit, on adore ce que vous faites, mais ça, c'est, pour notre public, ça va pas aller, quoi.
Oui, parce qu'elle a réussi à se créer un circuit parallèle.
Voilà, et on est Chaillot on et tout trop, ça. On est trop intello pour le réseau humour et on est trop rigolo pour le réseau.
Ouais.
Mais c'est là où l'acteur doit tenir le jeu, le fil du jeu. Parce que nous, je sais qu'on des fois, on est à la limite. Il y a vraiment cette idée où on est dans le théâtre, où on est dans la série Z. Mais il faut tenir le truc pour que ça reste toujours intéressant théâtralement. Qu'on soit pas justement dans la parodie, le potache. Parce que c'est pas ça qu'on veut faire, quoi.
Gnocchi. Papa, professeur.
Merci, petit.
C'est bon, gnocchi.
Bien épaisse, là.
Voilà, encore un petit peu pour le professeur.
Des gnocchos.
Ah, un gnocchi des gnocchos.
Oui, des gnocchos.
Voilà.
Merci, petit. Ça va, là. Elle est déjà bien épaisse.
Oh là là, il fait froid. Bon gnocchi.
Pour le Gombrowicz Show, vous avez utilisé donc de Gombrowicz son roman Les Envoûtés, donc pas l'un des plus connus, donc pas La Pornographie, pas Ferdi Durk. Et lui-même disait, bon, il y a quelque chose qui colle formidablement, ce roman est sur des gens qui sont pour le coup envoûtés, et en fait qui mêlent des genres totalement différents, puisqu'en fait c'était presque une commande qui s'est passée à lui-même, faire une sorte de roman de gare. Donc en fait c'est presque un remixage de quelque chose qui est déjà remixé lui-même, en fait.
Ouais, parce qu'en fait précisément, il s'était dit avec un ami, je ne sais plus comment il s'appelle déjà, on va se faire du blé, on va écrire un roman populaire.
Sophie Pérez, donc, Xavier Boussiron, ça s'est compagnie Zerep.
Avéré être beaucoup plus compliqué d'écrire un roman pour la masse populaire que pour une élite. Et du coup, ils l'ont publié en épisode, mais le postulat de départ, c'était ça. Mais en fait, la complexité de l'affaire, vu ce qu'on fabrique, nous semblait super intéressante pour être le fil rouge et thématique et formel et idéologique du spectacle par rapport à lui comme auteur, comme artiste, comme philosophe, comme...
Et puis il y a tout son aspect, on peut dire, son aspect que lui revendique, cirque, il y a tout ce côté forain chez lui. Il y a une présence clownesque, burlesque, extrêmement importante et qui est très étrange parce qu'en même temps, elle s'appuie sur, je pense, qui est l'une des clés, à mon avis, de son œuvre et qu'on retrouve dans votre travail, qui est cette espèce de bascule entre maturité et immaturité. En fait, c'est comme dans son roman où l'adulte se retrouve dans la classe avec les enfants. Et donc, tout d'un coup, le point de vue bascule complètement. Et en fait, avec cette idée qu'on retrouve beaucoup, moi, dans le monde forain qui m'intéresse, c'est que quand on a la maturité, on n'a pas on n'a plus l'énergie vitale. Et quand on a l'immaturité, on a l'énergie vitale, mais pas la forme pour pouvoir la... Et donc, ces deux entités ont absolument besoin de se connecter.
C'est vrai que cette chose qui est de l'ordre de l'immaturité, de la maturité, c'est que lui, il est toujours sur le gond des deux. C'est-à-dire que, malheureusement, il y a une conscience... C'est même pas une conscience, il y a une lucidité terrible qui prend toujours le pas. Et dans l'histoire de la reprise du remix, c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux peut-être reprendre une forme à l'origine que tu voudrais désosser, mais si tu la reprends, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que l'endroit où elle te convoque, même si c'est par... c'est toujours une espèce d'antichambre, peut-être d'un amour terrible aussi, tu vois. Donc ce va-et-vient, il fait que ça n'arrête pas de se retourner sans arrêt. Et dans l'art, je pense que c'est ce qui est intéressant.
Une chose qui me paraît très importante...
Witold Gombrowicz, 1969.
L'homme aspire par un côté à la maturité, à la plénitude... à être un être achevé, c'est-à-dire à être quelqu'un pareil au Dieu, n'est-ce pas? Et d'autre côté, il est fasciné justement par la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est la vie. C'est la face ascendante. C'est la face où on devient chaque fois plus vital. Alors, l'homme, naturellement, qui vieillit, qui se sent menacé par la mort, alors il a une nostalgie très profonde de la jeunesse. Et même, je pense que cette nostalgie, dans notre culture actuelle, elle a été camouflée. On n'a pas donné assez place à cela. Et moi, je suis sûr que, par exemple, dans notre façon de sentir la beauté, maintenant, il y a déjà une crise énorme. Nous refusons la beauté classique, la beauté mûre, la beauté parfaite. Nous cherchons la beauté inférieure et la beauté imparfaite. Et c'est une chose énorme, parce que ça change les goûts.
Vitold, dans l'œuvre de Jean Genet, est-ce que vous voyez justement ce sens de la beauté dont vous parliez tout à l'heure?
Évidemment, pour moi, Genet, c'est un grand créateur. Et peut-être le plus grand artiste français, je crois. Parce quoi? Parce qu'il a ouvert une nouvelle réalité. De sorte que dans l'œuvre Jeanne de Genet, nous avons justement affaire avec une beauté dégradée, une beauté, pour ainsi dire, sale, inférieure. Et après, dans Genet encore, il y a une autre chose qui me paraît d'une force extrême. C'est qu'il a lié la beauté avec la laideur. C'est-à-dire, pour ainsi dire, il a montré l'autre côté de la médaille.
Quand je te parle du dégoût de soi-même et de ce qui t'inspire et du recul que tu as sur ce que tu produis, en fait, je n'ai jamais aucune satisfaction de la chose fabriquée. Je parle du moment de répète, de l'objet, de... Tu vois, par exemple, la montagne du Gombrowiczow, on s'était dit, on va faire une espèce de scéno 19e, un peu opératique, avec un gros bout de montagne. Et... Après, on s'est dit, on va mettre des meubles un peu polonais, comme ça, un truc comme ça, du bois, les costumes on a pris les costumes de Chaillot aussi, les costumes d'époque. Et à un moment, on était dégoûtés par toute cette esthétique, si tu veux. Ça nous faisait beaucoup rire de l'amener. Et après, c'était comment s'en débarrasser. C'est la limite de cette chose qui t'inspire, qui te fait produire et que tu dois dézinguer. Et moi, ça me semble assez vital, quoi. C'est une chose... C'est-à-dire que le côté grimaçant, au bout d'un moment, il est écœurant. Et comment tu te débarrasses de cette chose. Et puis, il y a les acteurs aussi qui sont sur le plateau. C'est comme si tu voyais des rôles en train de faire des créneaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais de ces possibilités et de ce talent, entre guillemets, ou des choses que tu sais faire? Qu'est-ce que t'en fais? Il y a une chose sur l'incapacité, la catastrophe, le ratage, la vacuité. Et je pense que c'est tout ça que ça convoque. Donc.
Mais ce dégoût, il est métabolisé en fait en autre chose. Il se transforme. C'est cette transformation qui m'intéresse. La chose, elle n'en reste pas une sorte de kitsch obscène en fait.
Oui. Ben oui, parce que de toute façon, c'est pas traversé comme ça. C'est vrai que j'adore Jacqueline Maillan. Enfin, tu vois, il y a des trucs que j'aime profondément. Et tout est son contraire. Et c'est comment naviguer d'une façon sobre avec tout ça, quoi. C'est vraiment de le manipuler et de le décortiquer et de l'écrabouiller. Et qu'est-ce qui va renaître de ces cendres-là ou de cette masse de... Tu vois, on dit souvent, c'est comme si on était sur un yacht, sur une mer de merde, tu vois. Il y a un côté... c'est d'arriver à être distant, à être toujours super vigilant sur ce qui nous... intrigue et ce qui nous fait fabriquer ces choses-là, et on est toujours en bataille, toujours. Je pense que c'est cette chose-là peut-être qu'on...
Les choses qui s'enrayent aussi, il y a le bégaiement, il y a le justement dont on parlait, il y a... c'est-à-dire qu'au fond, rien n'arrive à prendre, la machine s'enraye très rapidement selon sa propre logique.
Ouais, puis il y a l'idée d'une chose qui revient toujours au centre, et de qu'est-ce qui tient de tout ce qu'on remet au centre et de tout ce qu'on reconvoque à chaque fois et qu'on épuise, enfin de la forme qu'on épuise, des acteurs qu'on épuise.
Oui,
parce que
jusqu'à l'extinction.
Ouais, ils ont une inconscience de l'effort qui est absolument délirante. C'est comme des sportifs, quoi. Le morceau d'opérette repris façon zouk, c'est vrai, on peut le faire pendant 4 heures, on répète ça. On amène tout à son
point limite.
Ça. Ouais, ouais.
Libre, libre.
Bussiron et Pérez, qui rebrassent tout ça, le font... sans ignorer du tout ce que ce sont ces cultures populaires, mais avec effectivement des balises comme Gombrowicz et d'autres, mais où il y a quand même aussi, en particulier chez Jean-Yves, toute une dimension sentimentale, mais chez Sophie aussi, il y a une dimension consommation sentimentale.
Arnaud, La Belle Rougeoux.
Mais c'est rebrassé, c'est reformulé. Il y a une forme qui arrive et qui est la leur, quoi. Ben, la grande difficulté, c'est comment faire forme sans tomber dans le kitsch soi-même, quoi, je veux dire. Hein.
Est-ce que tu vois ça simplement comme comme parodique? Parce que je sais que tu fais une différence entre l'art parodique, tel que tu le définis, et la parodie, en fait, elle-même.
La parodie, c'est un mode qui consiste à se démarquer d'un original et, le plus souvent, pour le ridiculiser. Hein. Moi, ce n'est pas tant pour ridiculiser le modèle en question que pour révéler, plutôt dans ce modèle, quelque chose qu'il cache, qu'il refoule. Quoi. Et cette dimension critique de la parodie, elle se trouve depuis très très longtemps dans l'art. Et c'est vrai que, aussi bien par rapport au cirque, plus exactement par rapport au clown, que par rapport à cette notion de parodie qui n'est pas loin non plus de ces univers, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir qu'il y a en effet quelque chose qui peut ressembler à une tradition, mais une tradition critique. Pas une tradition figée qui fait que de répéter des formes pour les épuiser ou pour les valoriser, mais que l'art, les arts, ont généré par eux-mêmes des formes critiques de renversement. Et l'art parodique, tel que je le voyais, c'était consciemment, par contre, d'essayer de voir où elle pouvait se situer dans l'art dit contemporain, dans les pratiques littéraires contemporaines ou musicales contemporaines, sachant qu'évidemment, il faut distinguer effectivement ce qui peut relever de, on va dire vite, un Canal Plus, de ce qui peut relever de quelque chose de plus incisif et de plus dur. Et c'est vrai que des gens comme Bruce Nauman ou McCarthy ou Mike Kelly, de façon différente d'ailleurs, ont su justement se servir de ce refoulé, montrer ce que ce refoulé pouvait dire entre guillemets, du grand art, des arts majeurs, dits majeurs, sans pour autant, en effet, valoriser l'un pour dévaloriser l'autre. Non, j'étais juste, en tant que coup de loupe ou que révélateur, ou que, comme la caricature, hein, et Ernst Kriss qui a écrit sur la caricature, montre bien que dans la caricature, ce qui était à l'œuvre, c'est le refoulé, le caché. C'est pas simplement le modèle en tant qu'il serait un modèle qu'on veut y ridiculiser, mais bien faire apparaître du corps, faire apparaître du sexuel, faire apparaître du non-dit en général. Mais c'est vrai que la figure par exemple d'Alfred Jarry me paraît essentielle dans cette histoire-là, par exemple. Mais alors, la question après, qui rejoint celle de l'histoire de la performance dont on parlait tout à l'heure, c'est comment réactiver en permanence cette dimension critique, ou c'est par le rire ou par autre chose d'ailleurs, qui fait que, on a pu me dire à propos, par exemple, de l'art parodique, ou l'idiotie d'ailleurs de Joinet est un peu dans le même registre, on va dire, que j'avais fait beaucoup de mal dans les écoles d'art, que ça a pu faire école. Et si ça a fait école, c'est un peu embêtant, parce que ça veut dire que cette dimension négative ou critique, elle n'est plus que de pure forme, quoi.
Dans ce remixage, tu fais une très très belle performance à propos d'Elvis. Mais justement, quelle différence avec ce remixage-là au fond d'une icône de la culture pop et, admettons, Jeff Koons à Versailles avec Michael Jackson ou avec Mickey ou des choses comme ça?
Ce principe d'ambiguïté, il s'applique dans ma relation précisément à Elvis. C'est-à-dire que la figure d'Elvis Presley a tout pour m'être absolument intolérable, en particulier le troisième Elvis, quoi. Enfin, l'Elvis d'après l'armée, l'Elvis de le clone de lui-même, un peu enfin, en costume inca, avec des pierreries partout, pesant 150 kilos, ou presque 200, j'en sais rien. Enfin, oui, je devrais. Bon. Et précisément, c'est cette figure-là, plus que tous les autres Elvis qui m'intéressent. Précisément parce qu'il est, alors, il est le négatif de lui-même, il est l'incarnation totale du contraire de ce qu'il a pu représenter, justement, la révolte, la jeunesse, le sexe, le dynamisme. Bon, cette dimension négative m'intéresse. J'y vois une sorte de sincérité absolue. Quand j'écris ou quand je fais cette lecture performance sur Elvis, je convoque mes contradictions. Ce dont ça parle, je le trouve là-dedans, mais quand moi je dois le restituer, je montre mon embarras malgré tout à restituer ça totalement, soit dans la fascination, soit dans soit simplement en utilisant l'imagerie. J'essaye toujours de montrer une gêne personnelle pour malgré tout créer la gêne chez le spectateur.
On voit bien que ce qui intéresse Bataille, et on le voit dans la revue Document, dans le cabaret, c'est d'y trouver ce que lui va appeler le bas matérialisme et y faire ses montages, donc entre culture savante et culture dite mineure. Et ce qui, par contre, la ligne américaine, elle est tout autre. En fait, j'ai l'impression qu'elle vient du hobo, en fait, qui prend ses guitares et qui tourne. Et on peut dire que l'extraction de ça, c'est le rock'n'roll band à la fin.
Mais de toute façon, pour les États-Unis. C'est lié à l'histoire de l'esclavagisme, enfin, c'est lié à des tas de facteurs qui, en effet, sont culturels, historiques, contextuels, tout ce qu'on veut. Donc, c'est beaucoup plus intégré d'une certaine manière. Les artistes américains ont quand même eu une éducation académique, je dirais, qui était très liée à la culture européenne, et donc aux avant-gardes européennes, etc. Et puis, de l'autre côté, il y avait toute cette espèce de culture qui était là, bien vivante et extrêmement. Puissante, mais dans toutes ses formes, c'est-à-dire dans ses formes les plus marginales, comme dans ses formes les plus commerciales. Du freak show, mais du blues le plus antique, en passant par Elvis Presley, etc. Donc là, on a un morceau quoi, de culture absolument colossal. Évidemment, les artistes américains n'ont jamais cessé de faire l'aller et retour, à mon avis, entre les deux. Moi, j'ai une hypothèse par rapport à ça, qui est justement que les Américains ont su fonder un folklore à partir du 19e et du 20e siècle, au moment où, justement, en Europe, cette forme avait plutôt tendance à disparaître. Donc, ils ont refondé un folklore à partir de ces traditions et de ces gestes populaires, mais qui n'a jamais cessé de se réinventer au fur et à mesure. C'est-à-dire qui existe encore aujourd'hui pleinement. Et me semble-t-il, justement, moi, j'essaye de travailler un petit peu sur ça en ce moment, ce qui m'intéresse, c'est justement le rapport de l'art américain au folklore. Et aux folkloristes, tu vois, c'est-à-dire à ces premiers types qui commencent déjà à essayer de sauver ben voilà, les premiers enregistrements de vieux bluesman qui parlent dans un langage que plus personne ne comprend, etc., etc. Mais justement, l'avantage du folklore, c'est qu'il nous permet peut-être de ne plus en passer, ou en tout cas de ne plus passer de la même manière par la division entre culture populaire et culture savante. Dire que le folklore, il traverse ces deux espaces-là. Et il permet donc peut-être de plus facilement pouvoir relier des choses qui seraient séparées plus par des questions d'ordre socio-culturel, je dirais, mais qui sont en tout cas pas des questions de pratique.
Ce que vous faites, ou séparément ou ensemble, travaille sur l'idée presque d'une origine perdue et d'une ressemblance démultipliée comme un grand palais des glaces, en fait.
Ça joue toujours sur des notions assez basiques et pas galvaudées, qui couvrent tout l'art, du coup. Tu vois, ça va des chansons de Phil Spector pour les gamines jusqu'à Gombrowicz, tu vois, mais en passant par la peinture. C'est vrai qu'il y a toujours ce problème du frais. Oui, du frais.
La fraîcheur.
Non, du frais et du faisandé. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. C'était du vrai et du faux, tu vois. C'est-à-dire que et c'est quand même un des grands domaines où tu peux réinterroger ça, le mettre en pratique, le montrer, le dissimuler, le rendre artificiel, le rendre documentaire. Ça sert à ça. Et c'est vrai que je pense que les pièces parlent beaucoup de cette chose-là, tu vois. C'est-à-dire que ça joue toujours sur ce retournement.
Et en fait, on recherche l'origine non plus par le début, Mais par la fin, en fait. Quand on enregistre, tu vois, on enregistre plein de...
Oui, mais déjà, l'origine, elle est toute fragmentée. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas une origine pure et dure, hein, qui serait à respecter ou à retranscrire ou à vraiment laminer. On s'amuse beaucoup sur l'idée de l'inspiration, mais déjà, l'inspiration... Si c'est d'un côté une anecdote personnelle, un roman familial, et puis tu te dis, tiens, c'est très compliqué parce que Flaubert, c'est très intéressant, puis John Carpenter, c'est très intéressant, et le lien qu'il y a entre les deux. Et puis en même temps, faut pas être trop un fossoyeur non plus, tu vois. Faut pas c'est le seul danger, c'est-à-dire de toujours déterrer des cadavres.
Tout ce qu'on a évoqué, donc la dissemblance, la perte de repères dans la filiation, la génération, ou tous les principes identitaires, au fond, on peut dire ça comme ça, qui passe donc par un répertoire très précis aussi, qui est quand même une reprise de beaucoup de formes ex-mineures, dites mineures, liées souvent à la culture de masse, ou la pop culture, on peut dire ça comme ça. Est-ce que c'est pas au fond, je pense que personne ne répondra oui, mais je pose toujours quand même, un ultime sauvetage au fond de l'art, à travers sa parodie, ou une dernière parade, quoi. Et là aussi, parade au sens où c'est une esquive de cette grande histoire de l'art qui nous précède, et une parade au sens où on fait la fermeture, quoi, de quelque chose qui est en train de rentrer dans la culture de masse, en fait.
Moi, je pense pas, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas tout en camon, quoi. Je crois que c'est pas la mort, c'est pas que ça finisse, l'obsession de cette entreprise. Bizarrement, c'est que ça n'arrête pas de continuer, tu vois. C'est comme un truc de zombie. Alors, c'est vrai qu'on utilise beaucoup de termes, tu vois, qui sont liés un peu à des monstres fantasmagoriques, mais c'est que ça n'arrête pas de se relever, quoi, tu vois. Le défi, c'est que ça n'arrête pas de se relever. Même si tu te dis, putain, cette estocade-là, elle est finale, on est débarrassé, et puis, non, t'es...
Même l'art sans œuvre finit par créer des œuvres.
À mort.
Et c'est beau, à mort.
Ah ouais.
Royaume Forain Remix, dernière partie, Bartleby et la chute, les cabarets du fiasco. Avec Arnaud Labelle-Rejoux, Sophie Cusset, compagnie Les Octavios, Katia Hussinger, compagnie Les Possédés, Maxime Mestre, compagnie Le Cheptel Alekoum, Jérôme Gamme, Christophe Kim, Sophie Pérez, Xavier Boussiron, Jean-Yves Joinet. Lecture, Juliette Piedevache. Mixage, Alain Joubert. Prise de son, Laurent César et Julien Douminc. Coordination, Anne-Vanessa Prévost. Une émission de Yann Siré, réalisée par Anne Fleury. She left till the night.
disposition I do despise. Now she's like a spider, she's hanging on the wall. She's like a spider, she's hanging on the wall. She knows she outquit me, she left me without a cause. Now you take the seven, and I'll take the sand feet. You take the seven, I'm gonna take the sand feet. I'm gonna ride and go, Grandma. You got to come on.